Bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour à tous, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. Les nouveaux chemins de la connaissance réalisés par François Connac avec Jacques Vincent à la technique et préparés par Adèle Van Rett, Avril Ventura, Geneviève Méric, Romain Villet, Mathilde Unger, Vanina Modi-Conacci. Suite et fin déjà d'une semaine sur le hasard dans les nouveaux chemins, après Lucrèce et le chaos, l'indéterminisme en politique et les jeux de Marivaux, c'est de Borges que nous allons parler aujourd'hui. Enfin de Borges, c'est beaucoup dire, tant Borges doutait lui-même d'être lui-même et non pas l'autre qui, portant le même nom que lui, aurait écrit les pages que le premier s'approprie. De Borges donc, et en compagnie d'Annick Louis, maître de conférences à l'université de Reims, à qui l'on doit notamment Borges face au fascisme 1 et 2, sous-titré Les causes du présent pour le premier et les fictions du contemporain pour le second, tous deux parus aux éditions Au lieu d'être. De Borges donc, ou bien ce qu'il en reste quand on parle de lui, et plus particulièrement d'une nouvelle magnifique intitulée La loterie de Babylone, dont voici tout de suite un premier extrait.
Quelqu'invraisemblable que cela paraisse, personne n'avait tenté jusque-là une théorie générale des jeux. Les Babyloniens sont peu spéculatifs. Ils acceptent les décisions du hasard. Ils lui livrent la vie, l'espoir, la terreur panique. Mais ils ne s'avisent pas d'interroger ces lois vertigineuses. Et les sphères giratoires qui le révèlent n'éveillent pas leur curiosité. Cependant, la déclaration officieuse que j'ai mentionnée inspira beaucoup de discussions de caractère juridico-mathématique. De quelqu'une d'entre elles surgit la conjecture suivante. Si la loterie est une intensification du hasard, une infusion périodique du chaos dans le cosmos, ne conviendrait-il pas que le hasard intervint dans toutes les étapes du tirage et non point dans une seule? N'est-il pas évidemment absurde que le hasard dicte la mort de quelqu'un mais que ne soient pas sujettes au hasard les circonstances de cette mort, la réserve, la publicité, le délai d'une heure ou d'un siècle.
Bonjour Annick Louis.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. C'est une joie de vous accueillir pour parler de Borges en votre compagnie, en particulier de cette nouvelle tout à fait particulière, peut-être exemplaire du travail de Borges et dans laquelle c'est un bonheur d'entrer, un bonheur inquiétant qui est la loterie à Babylone. Alors on va revenir sur le texte qu'on vient d'entendre. Avant cela, je voudrais qu'on parte du tout début de cette loterie à Babylone et plus spécifiquement d'ailleurs de la première phrase dans laquelle Borges, entre guillemets, dit ceci. « Comme tous les hommes de Babylone, j'ai été proconsul, comme eux tous esclaves, j'ai connu comme eux l'omnipotence, l'opprobre, les prisons. » Qu'est-ce que ça veut dire « comme tous les hommes de Babylone, j'ai occupé tous les métiers »
Eh bien, c'est ça, ce qui va être expliqué après, en fonction justement du fait que la loterie, à un moment donné, va devenir non pas un privilège de quelques-uns qui auront les moyens de jouer, mais va être démocratisée et tout le monde, au-delà du choix, d'un choix personnel, c'est-à-dire qu'on n'aura plus le choix de vouloir participer ou pas à la loterie, tout le monde va entrer dans le système de la loterie et occuper diverses fonctions, postes, etc.
Elle est démocratisée, c'est-à-dire rendue obligatoire.
Oui, c'est présenté dans ces termes, en fait, comme une sorte d'injustice qu'on fait au peuple de Babylone, de ne pas permettre à tout le monde de participer. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas les moyens ne pouvaient pas participer jusqu'à ce moment-là. Et donc, au fait, la loterie devient une affaire de la société, disons. Peut-être pas démocratisée, mais c'est présenté dans ces termes.
Comme une conquête, finalement, du peuple de Babylone.
Oui.
Mais ça, c'est stupéfiant parce qu'il faut revenir sur l'entrelacs hasardeux, profondément hasardeux. C'est-à-dire que la loterie, ce qu'on comprend avec la première phrase, c'est qu'elle est déjà à l'œuvre, évidemment, à l'instant où celui qui raconte l'histoire écrit le texte en question. La loterie gouverne déjà tous les gestes. Et En particulier, d'ailleurs, dans l'enchaînement causal, c'est comme si la loterie précédait l'enchaînement causal qui vaut à la loterie de se démocratiser. Parce que c'est un enchaînement complètement hasardeux, Annick Louis.
Oui, oui. En réalité, ce qui joue et ce qui permet le récit, c'est au fait le fait que le narrateur n'est plus à Babylone également. C'est-à-dire toute cette société est décrite à partir d'une sortie vers l'extérieur d'une personne qui l'intègre et qui a subi et bénéficié en même temps donc, de ces lois. Et c'est vrai que c'est une question qui apparaît dans beaucoup de textes de Borges à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il faut s'écarter d'un système pour pouvoir le raconter comme un tout. Et c'est pour ça que la loterie apparaît comme un système, comme un véritable système à partir de ce récit.
Mais ce système est en même temps hautement paradoxal. C'est comme si c'était un système à la fois cohérent et hasardeux. Et de ce point de vue, me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, on est en plein dans l'écriture borgésienne, précisément. C'est si vrai qu'au début, il dit ceci. « Regardez, à ma main droite, il manque l'index. Regardez, cette déchirure de mon manteau laisse voir sur mon estomac un tatouage vermeil. C'est le deuxième symbole, bête. » Les nuits de pleine lune, cette lettre me donne le pouvoir sur les hommes dont la marque est Guimel. Mais elle me subordonne à ceux d'Aleph, qui les nuits sans lune doivent obéissance à ceux de Guimel. En d'autres termes, il est soumis à ceux qui soumettent ceux... Alors attendez, il est soumis... voilà, c'est vertigineux. Il est soumis... non, il soumet ceux... et il est soumis à... C'est dingue. Les nuits de pleine lune, cette lettre me donne le pouvoir sur les hommes dont la marque est Guimel, donc il soumet ceux dont la marque est Guimel, mais il est soumis à ceux dont la marque est Aleph, qui eux-mêmes doivent obéissance à ceux de Guimel. Hein. En d'autres termes, c'est comme un tableau des chairs.
C'est la création d'une société dans laquelle les rôles et les fonctions ne sont pas fixes, au fait. C'est l'aboutissement de la loterie de Babylone, c'est ça. C'est un jour on est esclave, un jour on est maître, le lendemain on est pâtissier, un jour on est puni, un jour on est récompensé par un voyage ou une femme qu'on aime, qu'on voudrait avoir, et un jour on est puni, on vous coupe un doigt. C'est ce genre de système qui est proposé, au fait. Et c'est vrai que c'est très borgésien d'être à la fois dans un système où le hasard s'oppose à un univers qui est régi par des lois et dans un système où le hasard est régi par des lois. Et ceci ne pose pas contradiction dans l'univers fictionnel présenté.
Dans quelle mesure est-ce que ça n'est pas contradictoire, ça, Annick Louis ?
Ce n'est pas contradictoire parce qu'on lit le texte et on ne sort pas du vraisemblable, je pense. C'est-à-dire qu'on entre... C'est un texte dans lequel on entre très bien, malgré le fait qu'il est basé sur ce système de contradictions et sur cette idée qu'on peut jouer ou se laisser aller à un jeu du hasard en souhaitant une punition ou un châtiment et pas un bénéfice. Et qu'à aucun moment, en tant que lecteur, on n'est ni révolté, ni confronté à l'idée qu'il y a un invraisemblable dans le récit. Et c'est dans ce sens qu'il est logique, donc qu'il est régi, qu'on peut dire qu'il est régi par une logique très borgésienne.
Oui, une logique parallèle presque.
Oui, oui, mais c'est le propre un peu des récits de Borges de nous faire plonger dans des univers dans lesquels qui sont régis par des contradictions ou des principes qui sont contradictoires dans notre vie quotidienne. Mais lorsqu'on est dans le récit, on ne les vit plus comme contradictoires.
Alors, effectivement, mais ce qui se retrouve également dans ce texte, vous avez mentionné tout à l'heure, Annick Louis, le fait que c'était une loterie qui récompensait, comme toutes les loteries, et qui punit en même temps. Une loterie qui récompense et qui punit. Et c'est l'un des éléments, et d'ailleurs c'est à la faveur de l'introduction de la punition dans la loterie, que la loterie se démocratise. Comment ça marche ?
Au fait, ça paraît comme très ennuyeux que la loterie ne propose que des prix bénéfiques.
Il dit, ces loteries échouèrent, leur vertu morale était nulle. Et il continue, une réforme fut tentée, l'intercalation d'un petit nombre de chances adverses dans la liste des nombres favorables.
Oui, je pense que c'est aussi un système extrêmement borgésien, cette idée que le système ne peut jamais être à sens unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer pour obtenir seulement quelque chose de positif. Il faut, quand on joue ou quand on plonge dans un système, pouvoir qu'il y ait les deux choses. Et s'il n'y a pas la possibilité du bien et du mal, du mauvais et du bon, il n'y a pas de moralité. C'est un système qui est très borgésien et en même temps qui permet la diffusion du hasard dans tous les aspects de la vie. Et c'est à partir de là aussi, comme vous le disiez, que la loterie va se propager dans la société de Babylone.
C'est-à-dire qu'à partir d'une répartition hasardeuse des récompenses et des punitions, le hasard prend le pouvoir.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui apparaît aussi dans des récits de l'époque comme Tlön, Ukba, Orbistertius, c'est que...
Précisons que c'est le titre d'une nouvelle de Borges.
Oui, d'une nouvelle de fiction également.
Oui, dont qui invente un langage, en somme.
Un univers, disons. Un monde, un langage, un univers, une philosophie, une littérature. Et tous ces choix apparaissent au départ comme des choix. C'est-à-dire, c'est vraiment dans le sens de la démocratisation qu'on présente la possibilité de la loterie pour tout le monde, etc. Et comme vous le signaliez, ça va devenir tout de suite un système totalitaire, en un sens. C'est-à-dire un système d'obligation et à l'intérieur duquel il y aura des choix, ou du hasard. Le hasard va décider. Mais ça se termine bien à la fin en disant on ne pouvait pas compter que sur le hasard, il fallait introduire des erreurs également dans le hasard ou des imprévus, etc. C'est-à-dire que le hasard, ça ne va plus être l'imprévu. L'imprévu va être conçu par des hommes qui vont l'introduire dans le cadre du hasard. Et c'est vrai que ce système de l'infini, c'est vrai, c'est très borgésien, surtout à l'époque. Il faut se dire aussi qu'il y a la question du hasard et la démocratie, mais il y a aussi cette question du hasard et des sociétés secrètes, puisqu'à la fin, la loterie, la société qui met en place la loterie va se transformer en une cité secrète et anonyme, comme dans Tlön également, où il y a ce système de sociétés secrètes.
C'est anonyme d'ailleurs qu'on en viendra, ou en tout cas pour certains hérésiarques, comme il dit, à douter de son existence.
Oui. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que moi, j'avais vu ceci comme une réflexion que propose Borges également sur son présent, dans la mesure où nous sommes en 1940 et 1941, dans la période du fascisme, et que ces systèmes politiques apparaissaient comme des systèmes qui prenaient leur origine dans des sociétés secrètes.
Effectivement. Alors, on va revenir sur ces sociétés secrètes et ce qu'il appelle la compagnie, une idée d'ailleurs qui a été reprise avec succès dans bien des mises en scène complotistes où derrière les agissements des gouvernements, il y a la compagnie. C'est intéressant d'ailleurs d'observer que Borges, de ce point de vue, est l'ancêtre d'une série comme Prison Break. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où effectivement les gestes de chacun sont gouvernés à leur insu par la compagnie. Une question à Nick Louis, avant d'en venir à un autre texte de Borges et puis de revenir ensuite à la loterie à Babylone. Est-ce juste de dire du hasard qu'il est chez Borges l'autre nom de Dieu ?
Je ne dirais pas ça.
Ou l'inverse.
Excusez-moi
alors.
D'être hésitante. Ah non, mais je pense que dans le système borgésien, les deux choses apparaissent. Soit c'est l'ordre divin, soit c'est l'ordre du hasard. Et très curieusement, dans certains textes, le hasard relève de l'humain. Et dans d'autres textes, le hasard relève
d'un arbitraire souverain,
du divin,
oui, c'est ça.
Et c'est ça qui est étonnant, c'est que ça ne reste jamais fixe, mais on voit, il y a les deux cas, au fait. Dans la loterie, ça devient humain, au fait, le hasard. Mais il y a des textes où c'est très clairement le divin.
Impassibles dans leur coin, les joueurs guident les lentes pièces. Une guerre jusqu'à l'aube les retient au sévère damier où se détestent deux couleurs. Du centre rayonne de magique rigueur la tour homérique, l'agile cheval, la reine écrasante, le roi final, le fou oblique et les pions accrocheurs. Quand les joueurs se seront retirés, quand le siècle les aura consumés, le rite ne sera pour autant accompli. C'est en Orient que s'alluma cette guerre, désormais pour théâtre, elle a toute la terre, car ce jeu, comme l'autre, est infini. Tous, rois débiles, fous diagonales, reines acharnées, tours directes et pions rusés, par le noir et le blanc de leur trajet, cherchent et livrent leur bataille concertée. Ils ne savent pas l'évidente main du joueur qui dirige leur destin, l'inflexible et transparente rigueur qui pour eux choisit et mesure le chemin. Le joueur à son tour se trouve prisonnier, Omar l'a dit, des cases d'un autre échiquier où les nuits sont les noires et les jours les blanches. Dieu meut le joueur et le joueur la pièce. Quel dieu derrière dieu commence cette trame de poussière et de temps, de rêves et de larmes?
Je vivais depuis quelques semaines le plus charmant des rêves d'or. De bonheur, mon âme était pleine car j'avais l'espoir pour trésor. Toutes les femmes étaient jolies, le soleil brillait chaque jour. Je rêvais de mille folies, de succès, de gloire et d'amour. Et puis crac, maintenant c'est fini. J'ai pas gagné à la loterie. J'avais 1000 chances de réussite, mon numéro 143. 1 et 4, 5, 5 et 3, 8, j'habite au 15, ça fait 23.
Raymond Souplex, dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, c'est une trouvaille de François Connac, évidemment.
Sur le zinc, 17, 3, 13, je suis sûr de gagner. C'est clair, c'est net et c'est précis, puis j'ai pas gagné à la loterie.
Et Annick Louis, qui est notre invitée, ce vendredi, à la fin d'une semaine sur le hasard, la fin qui, en un sens, pourrait en être le début, c'est de Borges que nous parlons aujourd'hui. Et le texte que je viens de lire, Annick Louis, qui n'est pas sans rapport avec ce dont nous parlons à propos de la loterie à Babylone, le texte « Le jeu d'échecs », parabole magnifique, hein, du jeu d'échecs, évidemment, on en vient à la vie, ou au dialogue cosmique. Il se trouve ici que les derniers vers disent « Dieu meut le joueur et le joueur la pièce ». Quel dieu derrière Dieu commence cette trame de poussière et de temps, de rêves et de larmes? C'est en cela, si vous voulez, c'est la question du dieu avant le dieu. À partir du moment où cette question se pose, qu'on peut se demander si finalement le hasard ou l'indéterminisme n'est pas en un sens, j'allais dire, le fond de l'affaire.
Oui, ce qui apparaît dans ce poème très clairement, cette idée que ce qui est déterminé l'est, mais ce qui détermine ce qui est déterminé est aussi déterminé par quelque chose d'autre, et puis donc on entre dans une chaîne, et c'est cette multiplication de la chaîne de détermination qui donne cette impression qu'il y a le hasard, que ce n'est plus, on n'est plus dans le déterminé ou dans le tracé, dans le destin, mais dans le hasard. C'est une vision, effectivement, qui est très, très borgésienne. Ça permet toujours la création d'un autre ordre. Hein. C'est ce qu'il appelle dans la loterie de Babylone, un ordre nouveau.
Mais ce qui est borgésien ici, c'est évidemment ce que vous dites, mais c'est également le fait de... Le sentiment ou la découverte du sentiment en soi qu'on est le rêve d'un autre. En somme, Borges imagine que les pièces se savent, au bout d'un moment, quand elles accèdent à la conscience réflexive, au fond, manipulées, au sens littéral du terme, c'est-à-dire mues par une autre main, et qu'il nous resterait à apprendre à nous, pièces humaines, que nous sommes également le rêve de quelqu'un d'autre. Un rêve qui, peut-être, dans les termes de Borges, n'a pas encore été fait.
Oui, c'est ce qui apparaît dans les ruines circulaires également, hein, le personnage qui rêve un personnage jusqu'à lui donner vie et puis pour se rendre compte à la fin que lui-même est issu d'un rêve d'un autre, démiurge. Hein, ce sont les termes de Borges. Et effectivement, je pense que c'est ce qui apparaît également à la fin de la loterie dans Babylone, c'est-à-dire que le hasard, chaque acte individuel est dicté par la compagnie, on ne sait plus. Hein, chacun que réalise un acte, il peut être déterminé par la compagnie ou pas, mais comme vous le dites, qu'on soit dans l'ignorance ou qu'on soit dans la conscience d'être manipulé, déterminé ou régi par quelqu'un, ça change beaucoup les enjeux dans l'univers borgésien.
Alors, les enjeux sont considérables ici, hein, ce qui concerne la loterie à Babylone, puisqu'il s'agit à terme de vie ou de mort. Est-ce qu'on peut faire, restons encore un instant sur la façon dont la loterie a été généralisée ou démocratisée.
Oui.
C'est une parabole sur la servitude volontaire. La compagnie, dit Borges, c'est le nom qu'on se mit alors à lui donner, dut prendre en main les intérêts des gagnants, qui ne pouvaient toucher leur prix avant que n'eût été encaissé le montant presque total des amendes. Précisons que juste avant, Borges raconte qu'on se moque du perdant qui paye l'amende. La compagnie fit un procès aux perdants. Le juge les condamna à l'amende originale, plus les dépens, ou à quelques jours de prison. Tous optèrent pour la prison. C'est de cette bravade d'une poignée d'hommes qu'est sortie la toute-puissance de la compagnie, sa valeur ecclésiastique, métaphysique. Au fond, c'est parce que les hommes ne se soumettent pas à une décision de la compagnie que la compagnie prend tout le pouvoir. On a la parabole presque spinoziste d'individus qui combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut.
Oui. Oui, mais en même temps, ils ont un rôle actif dans le sens où ils transforment la loterie de quelque chose de uniquement monétaire, pécuniaire, pécunier, financier, en quelque chose qui relève du comportement humain. Et donc, ils sortent par ce geste, hein, la loterie, du système de récompense financière uniquement pour amener le hasard dans la vie, dans leur comportement, et en faire, je dirais, presque une question philosophique à partir de là.
Qu'est-ce qui est hasardeux ici dans le hasard de la loterie, dans le hasard borgésien dans la loterie à Babylone? Est-ce que c'est le phénomène de la loterie ou est-ce que c'est, comme il le dit en italique, ce qui n'est jamais innocent chez lui, la première apparition dans la loterie d'éléments non pécuniaires?
Qu'est-ce qui est hasardeux
Quand commence le hasard, si j'ose dire? Est-ce que c'est au moment où c'est le principe même de la loterie? Bon, très bien. Ou est-ce que c'est, peut-être plus subtilement, l'introduction du non quantifiable dans les rétributions ou dans les punitions qui accompagnent la loterie ?
Oui, oui, on peut le dire dans ce terme, mais aussi dans l'idée que... qui surgit, disons, chez les hommes, qu'ils peuvent intervenir dans le hasard. Au lieu de se soumettre, hein, ils peuvent eux-mêmes décider, comme vous disiez, on ne paye pas l'amende, et donc on transforme la loterie. Et donc c'est à partir du moment où il y a cette idée apparaît qu'on peut...
Hasard au carré.
Voilà, on peut intervenir sur le hasard, tout en laissant le hasard intervenir.
Le fait même qu'on puisse intervenir ajoute du hasard au hasard, évidemment, voilà, puisque l'intervention humaine est le gage de hasard dans une société.
Et c'est comme ça qu'on termine dans ce système de loterie où il y a un tirage au sort, donc on va être mis à mort, mais il faut encore tirer au sort pour savoir où, quand, comment, quel jour, enfin à quelle heure, par qui, etc. Donc au fait, on multiplie, il y a cette idée de ramification, il le dit dans ces termes d'ailleurs, du hasard dans la vie, qui semble être la liberté à Babylone.
Dans les salles de jeu, la foule était horrible. Comme ils sont insolents tous, et comme ils sont avides. Je me suis frayé un chemin vers le centre et je me suis placé tout à côté du croupier. Puis j'ai commencé à jouer, timidement, mis en deux ou trois pièces. Mais j'observais, je prenais des notes. Il m'a semblé que le calcul en lui-même ne signifiait pas grand-chose et qu'il était loin d'avoir cette importance que lui accordent nombre de joueurs. Ils restent là, ils notent des tableaux sur leur papier. Il remarque des coups, il compte, calcule les pourcentages, des nombres, puis ils finissent par miser. Et ils perdent, comme nous tous, simples mortels, qui jouons sans calcul. Par contre, je suis arrivée à une conclusion qui, elle, me semble juste. Une chose est vraie. Au cours des chances du hasard, il existe, je ne dirais pas un système, mais une espèce d'ordre, ce qui, bien sûr, est très étrange. Par exemple, il arrive que, après 12 chiffres du milieu, survienne une série des 12 derniers. Disons que le coup tombe deux fois sur les 12 derniers, après quoi il passe aux 12 premiers. Il tombe sur les 12 premiers, puis il repart sur les 12 du milieu. Il tombe 3 ou 4 fois de suite et repart à nouveau sur les 12 derniers. Ou de nouveau, après deux fois, il repasse au premier, retombe une fois sur les premiers et passe encore pour 3 coups au milieu. Et cela continue de cette façon pendant 1h30, 2h. 1, 3 et 2. 1, 3 et 2. C'est très amusant. Un autre jour ou un autre matin, par exemple, il arrive que le rouge et le noir alternent sans presque aucun ordre, à chaque minute. De sorte qu'il n'arrive jamais que la bille tombe sur le rouge ou sur le noir plus de 2, 3 fois de suite. Pourtant, le lendemain, ou bien le soir suivant, il arrive que ce ne soit plus que le rouge qui sorte. Cela peut atteindre jusqu'à 22 fois de suite, et cela se passe obligatoirement durant un certain laps de temps, par exemple durant toute la journée.
Annick Louis, spécialiste s'il en est de Borges, est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi, à l'issue d'une semaine sur le hasard. C'est du hasard que nous parlons chez Borges, encore que, Annick Louis, le texte qu'on vient d'entendre, contrairement aux apparences, et c'est la raison pour laquelle on a choisi de le diffuser dans cette émission, n'est pas de Borges, mais de Dostoïevski. C'est un texte qui se trouve dans le Joueur, chef-d'œuvre de Dostoïevski, dont on aurait pu d'ailleurs parler cette semaine également. Alors, je passe ici sur la tentation humaine de trouver des lois à ce qui demeure hasardeux. Hein. L'ambition qui est celle du joueur d'observer des constantes là où manifestement il n'y en a pas. Et l'espèce de délire qui s'empare de lui. Mais en revanche, je voudrais revenir sur une phrase qui peut-être est typiquement borgésienne et qui plus encore que borgésienne peut-être nous renseignerait paradoxalement sur l'écriture de Borges. Donc Dostoïevski pour lire Borges. Au cours des chances du hasard, il existe, je ne dirais pas un système, mais une espèce d'ordre, ce qui, bien sûr, est très étrange. Est-ce qu'on n'est pas là dans Borges ?
Oui, je dirais qu'on y est, oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il a, Il a lu Dostoïevski, contrairement à ce qu'il disait, qu'il a prétendu plus tard, quand Preuve il était est, jeune. Hein. Quand il était jeune, il a lu beaucoup de romans. Alors, vous savez qu'après, il s'est opposé assez violemment au genre romanesque. Mais il lisait, disons, beaucoup, hein, pour un jeune homme, les ouvrages russes de l'époque, Andreïev, Dostoïevski, Tolstoï apparaît aussi dans ses lettres de jeunesse, exactement. Alors, ce que je dirais par rapport à ça et par rapport à une tradition, c'est que ce qui est intéressant dans son cas, c'est que, bon, dans Le Joueur, on a cette situation d'une personne détruite par le jeu, hein, de la destruction de l'individu. Malgré ce passage qui intervient avant et qui est effectivement très borgésien, et que chez Borges, on a un renversement de cette situation, de cette idée très littéraire, hein, de la destruction qui peut arriver ou subvenir à partir du fait de se laisser aller à la loterie. Et je dirais qu'on échappe à la destruction et on transforme la destruction en autre chose également parce qu'il s'agit d'un phénomène social dans la loterie de Babylone. Ce n'est pas un individu confronté au hasard ou au jeu, mais c'est toute une société. Et effectivement, il y a cette idée de la transformation d'un ordre qui apparaît ou qui pourrait intervenir, qu'on pourrait trouver dans le hasard, comme le dit Dostoïevski, enfin comme le dit le personnage de Dostoïevski, en ordre social.
Un ordre social tel qu'on le trouve chez les Babyloniens qui, oui. Et on en vient au texte qu'on a lu tout à l'heure, hein, sont peu spéculatifs. Ils acceptent les décisions du hasard, ils lui livrent la vie, l'espoir, la terreur, panique, mais ils ne s'avisent pas d'interroger ces lois vertigineuses et les sphères giratoires qui le révèlent n'éveillent pas leur curiosité.
Oui.
Ça se passe à l'insu, si j'ose dire. Enfin, ils ne cherchent pas à comprendre, en somme. Il s'agit d'un phénomène social et non pas un phénomène de connaissance.
Non, mais ils cherchent à comprendre le fonctionnement de la loterie dans un autre sens.
Ce qui leur importe, c'est le respect des droits qui sont les leurs, en somme.
Oui.
Hein. C'est,
oui.
Méfiez-vous du peuple,
oui.
C'est quand même ça la morale de la nouvelle ici.
C'est très difficile de traduire.
Non, mais je vous le dis à vous, parce que vous avez travaillé sur Borges contre le fascisme. Mais en l'occurrence, il y a un texte, enfin, ce texte-là peut être lu comme, en somme, l'idée que le premier devoir de tout citoyen serait de se méfier d'une décision collective.
Oui, ou en tout cas d'avertir les gens sur le fait que ce qui part d'un choix libre, hein, et même d'une quête de liberté, hein, ça paraît dans des termes qui sont assez humoristiques, hein, dans le texte, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit, peut très bien aboutir à un système totalitaire. Hein, c'est le cas de l'autre nouvelle dont nous parlions, Tlön Ögbal Orbesertius, où ça commence comme un jeu intellectuel et ça finit par un système qui s'impose sur la réalité et qui, au fait, détruit toute autre réalité. Donc il y a ça, je pense que c'est vraiment une marque qui a un rapport avec le fascisme de l'époque, c'est-à-dire comment un choix, un système qu'on a choisi d'intégrer et que le peuple a choisi, là je pense que vous avez raison, c'est une décision collective dans ce sens-là, populaire, hein, comment ceci peut se transformer en un système totalitaire.
Venons-en tiens d'ailleurs à ce que vous citez, alors Tlön Ögbal Orbesertius,
oui.
C'est comme ça qu'on dit,
oui.
Hein, est un texte dans lequel Borges invente un langage.
Oui.
Littéralement. Il invente un langage de telle sorte qu'au bout d'un moment, ce langage s'impose à toutes les autres langues qui s'estompent, qui disparaissent sous lui. On est dans une figure typiquement totalitaire. Figure ou parabole qu'on retrouve dans beaucoup de passages de Borges, peut-être la bibliothèque de Babel également,
oui.
Mais différemment, sur des modalités différentes. Mais on ne sait jamais, alors c'est le lecteur du dimanche, hein, qui vous pose cette question, mais on ne sait jamais chez Borges si il redoute cette imposition d'un langage unique qui écraserait la pluralité des langues, la diversité des langues, ou si il en a la nostalgie. Quel Borges l'emporte ? Est-ce le logicien fou ou est-ce le poète attaché à l'objet singulier et qui pour cela a besoin d'un mot par réalité, Annick Louis ?
Je dirais que Borges dirait que le lecteur du dimanche est très intelligent parce que je pense que l'intentionnalité finale est cette ambivalence au fait chez lui. On est en même temps dans une nostalgie de ce type d'ordre.
Nostalgie presque scientiste, hein, chez Borges.
Oui.
Il y a de cela, il y a un élément scientifique. La science n'est pas seulement décorative ici, elle occupe une place essentielle.
Non, elle a toujours un rôle narratif dans les récits borgésiens. Donc on est en même temps dans un appel à l'imposition de ces ordres totalitaires et dans une nostalgie, hein, de ceci. Les deux choses cohabitent.
Imaginons un premier tirage qui commande la mort d'un homme. Pour l'exécution de la sentence, on procède à un second tirage qui propose, supposons, 9 possibles agents. De ces agents, 4 peuvent entreprendre un troisième tirage qui prononcera le nom du bourreau. 2 peuvent remplacer l'ordre adverse par un ordre heureux, par exemple la découverte d'un trésor. Un autre pourra décréter l'exaspération du supplice en le rendant infâme ou en l'enrichissant de torture. D'autres, enfin, peuvent se refuser à l'appliquer. Tel est le schéma symbolique. En réalité, le nombre de tirages est infini. Aucune décision n'est finale. Tout se ramifie. Les ignorants supposent que d'infinis tirages nécessitent un temps infini. Il suffit en fait que le temps soit infiniment subdivisible, comme le montre la fameuse parabole du conflit avec la tortue. Cette infinitude s'accorde d'admirable façon avec les sinueuses divinités du hasard et avec l'archétype céleste de la loterie, adoré par les platoniciens. Je pense qu'un écho difforme de nos rites a dû retentir jusqu'au Tibre. Elius Lampridius, dans sa vie d'Antonin Héliogabal, rapporte que cet empereur écrivait sur des coquillages les chances qu'il destinait à ses invités. De sorte que l'un d'eux recevait 10 livres d'or et tels autres 10 mouches, 10 marmottes, 10 ours. Il est permis ici de se rappeler qu'Héliogabal fut élevé en Asie mineure parmi les prêtres du dieu éponyme.
Borges est glaçant, parfois, Annick Louis. C'est aussi le sentiment qu'on a. Il faut se souvenir de rire quand on lit Borges et se souvenir de l'humour dévastateur qui est le sien. Mais il est glaçant. Il y a quelque chose de glaçant chez lui. Presque, j'allais dire, dans cette façon qu'il a d'ajourner la mort comme Achille, en termes mathématiques, selon les Éléates, puisque c'est la référence qu'il fait ici, hein, ajourne le moment de rattraper effectivement la tortue. On va revenir sur cette parabole. Mais d'abord, l'idée que Borges est glaçant, profondément glaçant. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je dirais que oui, en partie. Mais moi, c'est vrai que je suis très attachée à son humour aussi. Et je trouve que c'est une des particularités aussi de La Loterie à Babylone, c'est que c'est un texte qui est très drôle. Mais c'est très difficile de dire pourquoi, parce qu'au fait, on aurait plutôt envie de pleurer ou de se pencher sur le côté dramatique de l'existence. Et en même temps, c'est très, très drôle. Hein. On est tenté de rire pratiquement à chaque ligne. Et en même temps, comme vous le dites, c'est un rire glacé ou glaçant parce qu'il y a les deux choses en même temps. C'est la même chose pour des textes comme Tlön ou La mort et la boussole aussi, où le hasard intervient également. Et alors sur Tlön...
La mort et la boussole, je précise, hein, Tlön, La mort et la boussole, La loterie à Babylone, tout ça se trouve dans le même recueil. On le trouve en folio, par exemple, hein, et ça s'appelle « Fiction ».
Oui, voilà. Qui à l'origine avait été publié en 1944, donc c'est pour ça que j'ai fait allusion plusieurs fois au contexte du fascisme de l'époque, qui est très important à l'époque où il écrit, est très présent hein, pour lui également. Mais c'est vrai que, par exemple, vous disiez également pour Tlön, là où le hasard intervient vraiment, et c'est très important, c'est que le narrateur, lui, hein, qui a cette nostalgie et en même temps ce désir de voir se développer ce système, et c'est le hasard qui fait que c'est lui qui assiste à la plupart des premières interventions ou apparitions de cet univers fictionnel de Tlön qui va s'imposer sur la réalité après, avec sa langue, toutes ses particularités.
Comme jaillissant de l'univers réel.
Oui, il le dit.
Il faut travailler ici sur la question d'imagination chez Borges. L'imagination ne nous emmène jamais ailleurs, au fond. Ou cet ailleurs n'est que la recomposition, le réarrangement d'éléments qui sont familiers. De là, d'ailleurs, l'impression d'extrême normalité quand on entre dans les nouvelles de Borges. Toujours d'extrême normalité, d'ailleurs, quand il énumère comme une évidence le nom d'illustres personnages qui eux-mêmes sont des êtres imaginaires, mais dont il détaille la biographie à la virgule près.
Oui. Et dans beaucoup de textes, n'oubliez pas qu'il y a tout un univers qui lui était familier, qui apparaît comme Dantlun, des personnages, des écrivains, la ville de Buenos Aires, la Bibliothèque nationale, les noms des rues, etc. Et c'est vrai que c'est très important. Lui, il le dit, le narrateur le dit à un moment donné, il s'agit là d'un hasard qui me trouble. Hein. Mais j'ai également été témoin de la troisième apparition de l'univers de Tlun dans notre monde réel. Et jusqu'à ce moment-là, comme vous le disiez, on peut dire que lui, le narrateur, il voudrait bien voir ce monde s'imposer sur la réalité, le voir se diffuser, etc. Il l'appelle en quelque sorte par son attitude. Et après, il le regrette. Il regrette le fait qu'il n'est plus qu'une langue, qu'il n'est plus qu'un univers, que toute la réalité qu'on connaît, nous, est disparue.
Quel rapport Borges entretient avec la bureaucratie ?
Ah, c'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi.
Mais je suis sûr que vous pouvez y répondre.
Oui, la bureaucratie, je dirais...
On va consacrer une semaine à la bureaucratie dans les nouveaux chemins de la connaissance. Oui, c'est un sujet fondamental. Mais donc,
parce que vous rappelez que dans la loterie de Babylone, il y a un moment où apparaît le nom de Kafka.
Précisément.
Également. Et c'est vrai que dans tous ces systèmes qu'il imagine venir remplacer la réalité et détruire la réalité que nous connaissons, il y a toujours une bureaucratie derrière. Là, on imagine tous les hommes qui travaillent, par exemple, à la fin, c'est très parlant. Et il y a tous les gens qui sont là en train d'essayer d'introduire des erreurs, des fictions dans le hasard, dans l'histoire, etc. Et c'est vrai que dans Tlun également, on a toute cette question de bon, qui a fabriqué ce monde ? Il est impossible que ce soit une personne qui ait conçu un tel univers. Donc il se dit, c'est une compagnie. Bon, il ne le dit pas dans ce terme, mais c'est un peu comme dans la loterie de Babylone, on termine par se dire, c'est une société secrète. Qui est derrière tout ça et qui est multiple.
Alors, revenons un instant sur le duel avec la tortue. C'est une référence à l'épisode fameux que raconte Zénon d'Élé et qui a été ensuite repris par Bergson dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Pour le dire rapidement, Zénon établit que la tortue, mettons qu'elle aille deux fois moins vite qu'Achille, Achille lui court après. S'ils sont à 10 mètres l'un de l'autre, le temps qu'Achille parcourt les 10 mètres, la tortue en parcourra 5. Le temps qu'Achille parcourt les 5 mètres, elle en fera 2,5. Et s'ils sont à 1 milliardième de millimètre, le temps qu'Achille parcourt ce 1 milliardième de millimètre, la tortue avancera d'un 0,5 milliardième de millimètre, de sorte que mathématiquement, Achille ne rattrape jamais la tortue. Tout cela reposant, alors, servant aux Éléates à démontrer que le mouvement n'existe pas, et servant au contraire à Bergson à démontrer que la mathématique n'a pas la souplesse nécessaire pour comprendre, entendre, saisir et restituer le mouvement. Quelle utilisation Borges fait-il de ce mythe ? Pourquoi se trouve la parabole du duel avec la tortue, d'Achille et la tortue, dans la loterie à Babylone ? Annick Louis.
Et en fait, ce paradoxe apparaît dans beaucoup de textes, il le consacre même à Nessé. Et c'est vrai que c'est la structure qui apparaît à la fin aussi de La mort et la boussole, hein, cette idée que le temps peut se développer sur une ligne droite qui, au fait, serait fictionnelle, qui ne conduit pas là où on s'attend. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la vision borgésienne, c'est ne plus l'espace qui compte, mais le temps. Il transforme ceci en paradoxe temporel. C'est ce qu'on voit également dans Le jardin en sentier qui bifurque.
C'est ce qu'on voit aussi chez Bergson, d'ailleurs, qui s'indigne qu'on puisse spatialiser le temps.
Exactement. Parce que, en fait, le problème par lequel il est concerné dans cette période où il travaille sur cette parabole, c'est essentiellement le problème, justement, de la bifurcation narrative, c'est-à-dire ce qui apparaît dans Le jardin en sentier qui bifurque, comment on peut multiplier à l'infini un récit. C'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, nous trouvons tout à fait normal cette idée qu'un récit puisse avoir toutes les fins, enfin 150 ou 1500 fins différentes, parce qu'il suffit de cliquer sur une fonction différente et le personnage ira ailleurs, mais qu'en 1940, lorsqu'il écrit Le jardin en sentier qui bifurque, cette nouvelle où apparaît ce livre justement où à chaque fois que le personnage arrive à un point, on peut choisir un chemin différent à prendre. Donc il est tué dans un cas, ou il tue un autre personnage dans un autre cas. Donc il y a une sorte de ramification constante, hein, de l'action qui prend une dimension temporelle. Et c'est ce qui l'intéresse à cette époque-là, c'est plutôt cette question.
Alors, il y a deux choses. D'abord, il faut dire, hein, Le jardin au sentier qui bifurque, c'est peut-être la nouvelle la plus vertigineuse de Borges. C'est extraordinaire. Le simple fait de tuer quelqu'un parce qu'il porte le nom de la ville qu'il faut désigner aux ennemis qui bombardent. Enfin, c'est prodigieux. Mais Deux questions qui en fait sont liées l'une et l'autre, Annick-Louis. Est-ce que vous diriez de Borges, par exemple, qu'il est l'inventeur, le premier penseur de l'hypertexte, ce qu'on a appelé l'hypertexte avec l'arrivée d'Internet, c'est-à-dire en fait la possibilité de cliquer sur un mot et d'avoir, de voir se dérouler à ce moment-là les ramifications infinies qu'on peut trouver sur la toile autour de ce mot. Ça, c'est, serait-il le premier à avoir eu cette intuition? Et si c'était le cas, a-t-il eu cette intuition parce qu'il a la fascination finalement des mondes possibles, des choses qui auraient pu être?
Oui, je pense que, je ne sais pas si l'inventeur ou le premier, c'est très difficile à dater, mais en tout cas, je pense que c'est le premier qui...
Juste après Leibniz, disons.
Qui en a fait une fiction. Il était très marqué par Leibniz aussi, et c'est le premier qui a eu l'idée de traduire ceci en termes de fiction. Et je pense que certaines idées se diffusent plus facilement dans des fictions que dans des textes philosophiques, parce qu'ils sont tout simplement plus fréquentés, enfin les fictions sont plus fréquentées. Et il faut dire pour nous aussi que...
Allez-y.
Que juste pour finir avec le jardin, c'est que le hasard est très important là, parce qu'effectivement, il va vouloir tuer quelqu'un qui a ce qui répond au nom de la ville qu'ils font bombarder, mais il va se trouver le hasard va vouloir que cette personne-là soit la personne qui a réussi à déchiffrer l'énigme de son ancêtre que personne d'autre n'avait réussi à déchiffrer. Donc il se trouve au fait face à ce paradoxe très borgésien d'être obligé de tuer la personne qui lui a rendu son honneur, parce que la famille a été déshonorée suite à la confusion dans laquelle le livre « Le jardin en sentier qui bifurque » avait plongé la communauté intellectuelle chinoise de l'époque.
« Things that might have been », je pense aux choses qui purent être et ne furent pas. Le traité de mythologie saxonne que Bède n'écrivit pas, l'œuvre inconcevable qu'il fut peut-être donné à Dante d'entrevoir. Une fois corrigé le dernier vers de la comédie. L'histoire, sans le soir de la croix ou le soir de la ciguë. L'histoire sans le visage d'Hélène. L'homme sans les yeux qui nous ont fait don de la lune. Aux trois journées de Gettysburg, la victoire du Sud. L'amour que nous n'avons pas partagé. Le vaste empire que les Vikings ne voulurent pas fonder. Le monde sans la roue ou sans la rose. Le jugement de John Donne sur Shakespeare. L'autre corne de la licorne. L'oiseau fabuleux d'Irlande qui est en deux endroits à la fois. Le fils que je n'ai pas eu. C'est à vous, Annick-Louis, que je dois de connaître ce texte que vous m'avez montré au début de l'émission, qui est magnifique. Où, en somme, Borges est le greffier de tout ce qui n'a pas existé. On a l'impression, peut-être, après tout, dans la théodicée de Leibniz, à la fin, Leibniz s'achève sur la métaphore d'une pyramide qui contiendrait toutes les histoires qui n'ont pas eu lieu. On a le sentiment, avec Leibniz, il compare le monde à une grande bibliothèque. On retrouve cette parabole chez Borges. Pour lui, la bibliothèque, c'est l'autre nom de l'univers. Est-ce qu'en somme, Borges n'est pas le narrateur de tout ce qui n'existe pas, de tout ce qui aurait pu exister? Et ce qui n'existe pas et qui conserve de l'existence la valeur de cohérence, finalement.
Oui, moi je pense qu'en dans une certaine mesure il l'est, et surtout il c'est quelqu'un qui a toujours mis en avant le fait que lorsqu'on raconte un récit, on fait des choix, et tous les choix qu'on laisse de côté, ils sont tout aussi présents dans le récit que ceux qu'on a choisis. Il y a des textes qui commencent comme ça. J'aurais pu commencer comme ça. J'aurais pu situer l'action là, par exemple, comme histoire du traître et du héros. J'aurais pu situer l'action ici ou là-bas ou à un autre endroit. Mais je vais choisir ceci. Mais tous ces choix, au fait, jouent sur l'histoire qui est racontée. Et donc, il a cette façon de mettre en avant ce qui n'est pas et ce qui n'aura pas lieu, mais de faire un choix en même temps, parce qu'il y a toujours une histoire qui est racontée et jamais un lecteur qui est perdu. Le fil est toujours possible à suivre. C'est-à-dire que moi, je pense, contrairement à ce qui a toujours ou souvent été dit, il prend vraiment en compte le lecteur. Il disait souvent les écrivains ne le sont pas, mais les lecteurs sont des signes très rares qu'il faut vraiment cultiver et soigner, parce qu'un bon lecteur, c'est plus important qu'un bon écrivain. À la fin, c'était un peu ça la conclusion. Et l'image du lecteur, c'est aussi l'image des interprétations possibles, des lectures possibles. Ce qui ramène également à la loterie de Babylone, parce qu'il y a un moment où il est dit, par exemple, lorsque une punition était appliquée, il restait à savoir, et au fait c'était ce qui intéressait le peuple de Babylone, si cette personne avait agi parce qu'elle avait voulu agir comme ça, ou si elle avait agi par parce que le hasard lui dictait son comportement. Et donc, au fait, c'est là que je pense aussi qu'est l'intérêt du système de Babylone. Ce qui intéresse les Babyloniens, en fait, c'est la spéculation, quelque part, l'interprétation, la discussion sur ce qui arrive autour du hasard.
C'est bizarre, pourtant, parce que c'est lui-même qui dit que les Babyloniens sont peu spéculatifs et qu'ils acceptent les décisions du hasard. Il parle du hasard, mais ils en parlent comme de décisions.
Oui, il le dit, mais il parle au fait d'un moment antérieur du peuple de Babylone. Après, ils vont se mettre à spéculer sur la logique de la loterie. Il le dit jusqu'à un certain moment, c'est vrai, ceci est vrai. Mais ce qui les intéresse, c'est de pouvoir discuter du pourquoi et comment des actions et pas tellement de recevoir ou pas la punition, finalement.
Que reste-t-il chez Borges des dispositifs une fois qu'ils s'installent, une fois qu'ils prennent le pouvoir? La fin de la loterie à Babylone décrit plusieurs hypothèses sur la compagnie. L'une d'elles insinue abominablement qu'il y a des siècles que la compagnie n'existe plus et que le désordre sacré de nos vies est purement héréditaire, traditionnel. Précisément. Alors, le texte dit ceci. Une autre juge, au contraire, que la compagnie est éternelle et professe qu'elle durera jusqu'à la dernière nuit où le monde périra aux mains du dernier dieu. Celle-ci affirme que la compagnie est toute puissante, mais que son champ d'influence est minuscule. Cette autre, par la bouche d'hérésiarques masqués, déclare qu'elle n'a jamais existé et jamais n'existera.
Oui, la fin du récit est vraiment presque lyrique, je dirais, pour un récit de Borges. Et je dirais effectivement que là, il y a la question du hasard projeté avec une telle intensité.
Parce que la dernière phrase du récit, c'est « Babylone n'est qu'un infini jeu de hasard ».
Oui. Le système mis en place par la compagnie est tellement intense, tellement fort et important que peut-être qu'au fond, derrière, il n'y a plus de compagnie. Cette idée que c'est le système en lui-même qui devient autonome. Mais je dirais quand même que ce qui est très parlant dans l'histoire, c'est qu'à tout moment, les Babyloniens ont des moyens de prendre le pouvoir. C'est-à-dire à aucun moment la loterie ne se solde par une obéissance ou une soumission absolue à la loterie. Ils ont toujours des moyens de contester. Alors ils ne payent pas l'amende ou alors ils se mettent à discuter sur le pourquoi, dû à la punition. Mais il y a toujours des moyens d'avoir ou de créer un certain pouvoir sur la compagnie.
Mais ce pouvoir qu'on prend sur la compagnie rajoute justement, c'est-à-dire au pouvoir de la compagnie, puisqu'elle instituant le hasard, on l'a dit tout à l'heure, en combattant le hasard, on rajoute un élément d'aléatoire dans un hasard qui, en tant qu'il est institué, devient nécessaire.
Oui, mais je pense qu'à la fin, il est très difficile de savoir qui a le pouvoir. C'est sur ce système borgésien dans lequel on agit sur le pouvoir agit sur nous. Et je pense que là, c'est vrai que c'est un peu kafkien. On a déjà mentionné trois fois Kafka, mais c'est vrai. Mais en même temps, on peut se dire où est le début? Qui est le plus fort des deux? Et à chaque moment du récit, c'est l'un des deux qui l'emporte, mais il n'y a pas de fin. Jusqu'à la fin où il propose cette idée qu'il n'y a pas de compagnie, il y a juste un fonctionnement.
C'est à l'autre, à Borges, que les choses arrivent. Moi, je marche dans Buenos Aires, je m'attarde peut-être machinalement pour regarder la voûte d'un vestibule et la grille d'un patio. J'ai des nouvelles de Borges par la poste et je vois son nom proposé pour une chaire ou dans un dictionnaire biographique. Il y a des années, j'ai essayé de me libérer de lui et j'ai passé des mythologies de banlieue au jeu avec le temps et avec l'infini. Mais maintenant, ces jeux appartiennent à Borges, et il faudra que j'imagine autre chose. De cette façon, ma vie est une fuite où je perds tout, et où tout va à l'oubli ou à l'autre. Je ne sais pas lequel des deux a écrit cette page.
D'ailleurs, il s'aime. Sont jamais sur le même palier, n'arrivent pas à se rencontrer. Et quand l'un descend, l'autre monte. Le hasard, monsieur, quelle honte! La jolie dame du troisième et le monsieur du quatrième qui voudraient tellement s'aimer. D'ailleurs, ils s'aiment. Le hasard, monsieur, quel dilemme!
Merci infiniment, Annick-Louis. Avec vous s'achève cette semaine sur le hasard, dans les nouveaux chemins de la connaissance, avec vous et donc avec Borges, dont je rappelle que le recueil fiction, pour ne citer que lui, hein, je renvoie l'auditeur évidemment à notre site internet pour la bibliographie exhaustive des œuvres de Borges, le recueil fiction est disponible en folio, c'est une pure merveille, Borges prend soin de son lecteur, c'est vertigineux, ne vous laissez pas, si vous ne connaissez pas Borges, déconcerté par l'abord rigoureux ou cohérent du début, laissez-vous prendre justement, vous vous apercevrez au bout de 10 lignes que vous marchez sur la tête. Vous pouvez également, comme parabole d'ailleurs, comme prolongement de la Loterie à Babylone, vous plonger dans Prison Break, la série qui donc est directement inspirée de la Loterie à Babylone, puisque le terme de compagnie est l'invention, en l'occurrence, de Borges. Aujourd'hui. Enfin, l'émission d'aujourd'hui est dédiée à Ali Vépilef, grand borgésien en diable, grand borgésien devant l'éternel, immense connaisseur de Borges, et c'est à lui que, personnellement, je dois de savoir le peu que j'en ai lu. ...10h50 sur France Culture, on retrouve avec bonheur le journal des nouveaux chemins de la connaissance. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
On passe de Borges à la cruauté, pourquoi pas?
Oui, donc on quitte le hasard et on parle de l'intention, la volonté de faire le mal et donc de la cruauté. Essai sur la passion du mal, c'est le titre de l'essai de Michel Herman qui paraît aux presses universitaires de France ce mois-ci. Bonjour Michel Herman.
Bonjour.
Alors la cruauté, à la différence de la violence qui peut être utilisée comme pour des fins justes, pour empêcher un mal plus grand, la cruauté, elle reste un acte de démesure sans d'autre visée que l'excès, que sa propre démesure. Et dans sa démesure même, elle échappe à tout discours, à toute pensée. Ce qui explique qu'on la relègue à la part inhumaine de l'homme, à quelque chose qui serait contre nature. On pense généralement que la cruauté relève du monstrueux et donc de l'inhumain. Or, Michel Herman, la cruauté est-elle véritablement contre nature? N'est-elle pas au contraire un propre de l'homme, dans la mesure où on ne la retrouve pas dans le reste de la nature? Chez les animaux, par exemple, la cruauté est véritablement, proprement humaine. Qu'en pensez-vous?
Oui, absolument. La cruauté est le propre de l'homme. Mais la cruauté est une notion au fond paradoxale, une notion enfouie, une notion cachée dans la culture occidentale. Chez Aristote, par exemple, elle est, comme vous l'avez dit, elle est la trace de l'excès. Elle n'a pas de langage, elle n'est pas pensée. Elle se situe, elle arrive lorsque les hommes oublient la vertu, selon Aristote. De la même manière, dans l'ontologie platonicienne, le mal n'existe pas, il n'a pas d'être, n'est-ce pas ? Donc c'est ça qui est surprenant, c'est que la cruauté est une sorte de principe, mais un principe enfoui, un principe quasiment intransitif. La cruauté, elle est sans objet réel. Il y a une scène qui est rapportée par Primo Levi. Primo Levi rapporte que lorsqu'il arrive à Auschwitz...
Dans Si c'est un homme.
Dans Si c'est un homme, qu'il se saisit d'un morceau de neige glacée pour se rafraîchir. Et un soldat SS arrive, lui arrache ce morceau de neige glacée. Et à ce moment-là, Primo Levi demande « Mais pourquoi ?» Et la réponse est connue, « Hier ist kein warum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi.
Hein,
cette situation, on dit au fond, l'essence énigmatique, l'essence impensée sans langage, il n'y a pas, c'est négatif, il n'y a pas de pourquoi.
Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas non plus de haine, de colère dans ce cas. Le bourreau, en l'occurrence, ou en tout cas le gardien SS qui fait ça, ne manifeste aucune colère réelle envers la personne elle-même.
C'est la grande leçon.
C'est intéressant de voir que la cruauté n'est pas forcément associée à la haine.
C'est la grande leçon du livre de Primo Levi, Si c'est un homme, à propos de diverses situations dans lesquelles les détenus sont aux prises avec la violence des SS. Il montre que cette violence est exercée sans haine, absolument sans haine. La cruauté n'a donc pas de but, elle n'a pas de finalité. Ou alors, elle a cette finalité de tuer deux fois, de tuer une seconde fois. Michel Foucault, dans Surveiller et punir, rapporte, entre autres, le supplice de Damien, bien sûr, mais il rapporte beaucoup de situations dans lesquelles les bourreaux exercent la violence avec cruauté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de tuer, mais de tuer une seconde fois. C'est assez éprouvant de lire les mémoires des bourreaux. Dans les années 1950, l'Angleterre s'est interrogée sur la peine de mort. Et à cette occasion, il y a eu une enquête parlementaire et le bourreau de sa très gracieuse majesté est venu témoigner. Et ce témoignage personnage est absolument affolant, ahurissant. Il montre au fond que pour lui, la mort est une chose normale. Infliger la mort est une chose normale, c'est une technique. Il peut arriver d'ailleurs, puisqu'on pendait en Angleterre, il peut arriver que la pendaison amène d'énormes souffrances, que la mort ne soit pas instantanée. Et pour lui, le bourreau, eh bien, il s'étonne, au fond, qu'un certain nombre de condamnés n'aillent pas à la mort de façon quasiment gracieuse. Il y a là, au fond, dans le fait de donner la mort au nom de la loi, il y a toujours eu, il y a souvent eu, en tous les cas, dans un certain nombre de témoignages que l'on peut lire, une sorte de pulsion qui jaillit, sans raison absolue. Et cette pulsion, c'est la pulsion cruelle. C'est ce que j'appelle, moi, le principe de cruauté. Mon livre aurait d'ailleurs pu s'appeler ainsi, le principe de cruauté, si le titre n'avait pas déjà été
le
pris.
Le principe de cruauté, mais vous dites que la cruauté n'a pas de raison, qu'elle n'a pas d'intention, mais est-ce que la cruauté n'est pas tout simplement l'intention, la volonté de faire le mal ?
Alors c'est une volonté pure de faire le mal.
C'est-à-dire
c'est ça qui est difficile à penser.
C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'objet précis.
Elle n'a pas d'objet précis.
Dans une passion, dans une intention.
Elle n'a pas d'objet précis dans une passion, dans une intention. Elle est intransitive en quelque sorte. Alors, un bon exemple contemporain, c'est le terrorisme. Comme on le sait, les différents politologues, les historiens qui ont travaillé sur le terrorisme montrent bien que, au fond, pour le terroriste, est coupable celui qui est mort. Mais il n'y a pas, au départ, d'intention, de finalité immédiatement politique, sauf celle d'accéder au ciel, en quelque sorte.
La volonté du terroriste, c'est quand même de faire le bien.
Oui, au fond, le terroriste veut faire le bien. Le mal est toujours tourné vers une sorte de fantasme du bien.
Ce qui montre bien que la cruauté ne... Enfin, cette analyse-là de la cruauté que vous faites et ce que vous dites montre bien qu'il n'y a pas de bien et de mal en soi. En réalité, de faire de la cruauté une intention, une pulsion, une passion, montre qu'il n'y a que des situations dans lesquelles l'individu éprouve la liberté de commettre ou non des actes effroyables aux dépens d'autrui.
Oui, c'est absolument ça. La cruauté, au fond, il a fallu la nommer. Dans l'histoire des idées, il a fallu la nommer. Quels sont les termes qui ont permis de la nommer ? La barbarie, bien évidemment. Et puis, plus près de nous, le sadisme. Bien. Mais barbarie et sadisme ont toujours donné lieu à des explorations des causes. Moi, je pense qu'il y a une cause qui est quasiment inconnaissable ou innommable, c'est ce principe de cruauté. Ce principe qui mêle une violence absolue, une violence que ne connaissent pas les animaux, puisque on sait que les animaux sont violents pour la possession du territoire, pour la possession des femelles, mais qui ne sont pas violents gratuitement.
La violence est toujours au service d'une fin.
La violence est au service d'une fin.
Pour autant qu'on puisse juger, en tout cas. Oui.
Voilà. De même, la violence dans l'espace social est souvent conduite par une fin. La violence politique, pour changer de régime, la révolution, pour changer de régime. Mais comme on le sait, la révolution mange souvent, dévore souvent les révolutionnaires, et c'est au moment où elle les dévore qu'arrive ce principe de cruauté, en quelque sorte inexplicable. Alors on peut donner un certain nombre d'explications, certainement, des explications pulsionnelles, des explications passionnelles. On peut parler de l'oubli de soi. On peut parler, en termes sartriens, n'est-ce pas, du pour-soi qui nierait le pour-autrui. Mais toutes ces explications, au fond, constituent une sorte de mosaïque sans cesse changeante.
Et aussi, pour comprendre la cruauté, on peut aussi lire La recherche étant perdue, à laquelle vous consacrez une grande analyse dans votre livre. Et vous montrez bien que dans ce roman, même s'il apparaît étonnant en premier abord d'associer la recherche à la cruauté, qu'il y a une véritable démesure qui occupe une place très importante au sein de l'œuvre et sous les aspects d'une torture intérieure du personnage, la cruauté est en réalité celle du réel ou de la nature. Merci Michel Hermand. Je rappelle le titre de votre livre, La cruauté, essai sur la passion du mal, et ça paraît aux presses universitaires de France.
C'est noté, Adèle, et ça a l'air passionnant. Sinon, vous avez trouvé quoi? Olivier Razac.
Alors on reste un peu dans le même registre puisqu'il s'agit d'une histoire politique du barbelé par le philosophe Olivier Razac. Donc le barbelé, ou autrement appelé la corde du diable, l'écharde du souvenir ou la frontière brûlante. Donc c'est autant d'expressions qui désignent le fil barbelé, cet outil agricole qui est devenu un outil politique et un symbole universel de l'oppression. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, c'est l'idée que finalement les meilleurs outils d'exercice du pouvoir sont ceux qui dépensent le moins d'énergie possible pour produire le plus d'effets de domination. Et cela, Olivier Razac le montre à travers l'analyse de trois grandes catastrophes de la modernité, à partir de la conquête de l'Ouest et le génocide des Indiens d'Amérique, et aussi les deux guerres mondiales, mais aussi à travers des usages plus communs et plus ordinaires du fil barbelé dans la propriété privée, par exemple. Et il analyse aussi le passage vers la virtualisation du barbelé à travers des formes telles que la vidéosurveillance ou le bracelet électronique. C'est donc l'histoire politique du barbelé. Ça paraît aux éditions Champs.
Un grand merci et merci à tous, hein, de Borges à la cruauté et au fil de fer barbelé, c'est le chemin de la connaissance du jour, notre sentier qui bifurque à nous. Et c'est aussi donc, vous l'avez entendu, la fin d'une semaine sur le hasard dans Les Nouveaux Chemins, une semaine qui fut pour nous l'occasion de parler du chaos, de Lucrèce, de politique, de Marivaux et de Borges, et aussi d'entendre la douce voix d'Anne Brissier, notre merveilleuse lectrice dont l'interprétation sans faille nous a accompagnés donc toute la semaine. Sur le site internet de l'émission, vous pourrez réentendre ou télécharger les émissions de la semaine. Vous trouverez aussi la bibliographie de tous nos invités, comme de ceux dont ils parlent, www.franceculture.com à la page des Nouveaux Chemins. Changement de décor, la semaine prochaine c'est de psychanalyse que nous parlerons, de psychanalyse dans tous ses états. Nous commencerons la semaine avec Gérard Hubert, qui élabore une étonnante biographie psychanalytique de Freud. France Culture, 10h59, dans un instant, question d'époque.